Le dimanche qu'on avance l'heure est toujours le pire dimanche dans l'année pour un pasteur. La perte d'une heure de sommeil. Pour notre équipe, nos bénévoles qui arrivent déjà une heure, déjà bonne heure le dimanche, et une perte d'une heure de sommeil pour moi. Là, il va falloir que j'attende 6 mois pour rattraper cette heure. Et en plus, on ajoute la mauvaise température ce matin, mélange de pluie, neige, le vent. Alors, une bonne main d'appréciation pour notre équipe et nos bénévoles. Et chacun de vous, vous êtes déplacés malgré, vous êtes là, vous êtes à l'heure, vous êtes en devoir. Yes, merci, malgré ça. Et à tous nos amis qui écoutent la réunion en ligne dans le confort de leur salon, on vous salue. Merci d'être là aussi. On est heureux de vous souhaiter la bienvenue. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer ce matin. J'ai eu le privilège de lancer notre 9e multisite dimanche après-midi dernier en anglais, New Life Church. Attends. New Life Church avec plus que 500 personnes pour la première réunion. Wow! Standing room only dans l'auditorium, une atmosphère électrique, énergique et divine. Et comme vous savez, Nouvelle Vie a maintenant 9 sites, 7 français, 1 espagnol et 1 anglais. Combien c'est que les Anglais ont besoin de Jésus aussi? Alors, merci Seigneur pour le lancement de New Life Church. Et je profite du moment pour vous présenter le pasteur de New Life, Selvin Cortez, et son épouse Kelly, que j'invite ici en avant sur la plateforme afin de mettre un visage avec le nom. Souhaitons le bienvenu à Selvin Kelly Cortez. Selvin fait partie de l'équipe pastorale Nouvelle Vie depuis ce mois-ci, à 2 jours semaine pour l'instant, mais 1 jour à temps plein. Il est aussi professeur temps plein à Concordia, photographe professionnel, mais il répond à l'appel de Dieu pour être le pasteur de New Life Church. Selvin et Kelly sont matures, sages, à l'écoute de Dieu, sont dévoués à Jésus ainsi qu'au service de son Église, et Selvin est aussi dévoué à la prédication et l'enseignement de la parole de Dieu et au ministère pastoral. On est tellement heureux de les souhaiter la bienvenue sur l'équipe pastorale de l'Église Nouvelle Vie comme le pasteur de New Life. Son seul défaut est qu'il est partisan des Cowboys de Dallas. Presque impardonnable pour moi. Mais bon, on est quand même heureux qu'il ait répondu à l'appel de Dieu. Selvin, Kelly et aussi ses 3 beaux enfants qui sont avec nous ce matin, Mathieu, David, Grace, levez-vous. On les souhaite la bienvenue aussi. Bienvenue sur l'équipe Nouvelle Vie. Merci d'avoir répondu à l'appel de Dieu près le pasteur de New Life. La prochaine réunion, c'est le 7 avril, 16h30, ici dans le sanctuaire. On a lancé la première réunion, on l'a lancé dans l'auditorium, mais maintenant, nous allons être dans le sanctuaire afin qu'il y ait la place pour tout le monde. 7 avril, 16h30, invitez vos amis et voisins et collègues anglophones. On est 1 fois par mois, tous les premiers dimanches du mois pour l'instant, mais éventuellement, à tous les semaines quand les ressources nous permettent. Alors, une bonne main d'applaudissement pour New Life Church et ce que le Seigneur fait. Merci. Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble? Donnons une ovation debout au Seigneur pour tout ce qui prenne place à l'Église Nouvelle Vie, dans toutes les langues, tous les sites, partout, les jeunes adultes, les ados, les sites anglais, français, espagnol. Comment tous ont écrit de joie pour tout ce qui prenne place à l'Église Nouvelle Vie? Merci, Seigneur. C'est excitant. Faites-vous asseoir. Merci. Je suis heureux de lancer cette nouvelle série de messages sur la résurrection, un sujet d'importance suprême. Comme nous voyons dans cet échange entre Jésus et un secte juive qui ne croyait pas à la résurrection. Marc 12. Les Sadduciens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection, viennent auprès de Jésus avec une question. Et Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur, parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu? N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse, « Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants? » Vous êtes grandement dans l'erreur. de ne pas croire en la puissance de Dieu pour non seulement ressusciter Jésus, mais nous aussi un jour, n'est pas seulement une erreur selon Jésus, mais une grave erreur. Une erreur qui nous coûtera notre âme et notre éternité. Et non seulement que la résurrection est importante en tant que croyance et conviction, mais la résurrection de Jésus est l'événement le plus marquant de l'histoire du monde. Elle est absolument et sans aucun doute l'événement le plus important dans l'histoire de l'humanité et surtout le plus important pour l'Église chrétienne. Elle est plus importante que Noël, que la Pentecôte, que Vendredi Saint même. Le Nouveau Testament mentionne la résurrection plus souvent que la crucifixion, car sans la résurrection, la crucifixion est la mort d'un autre faux Messie parmi plusieurs, et Noël est une histoire mythique. C'est la résurrection qui ajoute le sceau de crédibilité sur toutes ces histoires. Elle est la preuve que Jésus est ce qu'il a dit qu'il est, le Fils de Dieu, le Messie, le Sauveur, Seigneur et Rédempteur. Jésus est mort pour nos péchés, mais il est ressuscité pour notre salut. Une bonne main d'applaudissement. Il est qui dit il est. La résurrection, c'est le sceau. Et pour cette raison, nous croyons que la résurrection est le signe, parmi tous les signes, confirmé par Jésus en réponse à des gens qui lui demandaient un autre signe, un autre miracle. On veut une autre preuve que tu es le Fils de Dieu, après tout ce que Jésus avait déjà fait. On a le passage ici. Les pharisiens souverains se mirent à discuter avec Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Jésus soupire profondément son esprit. Ce n'était pas la première fois. Il dit, pourquoi cette génération demande-t-elle un signe et un autre signe et un autre signe? Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas, qui est le miracle de la résurrection après 3 jours. Et Jésus avait raison, parce que car une fois que Jésus est ressuscité, que voulons-nous de plus? Que pouvons-nous demander de plus? Comprenez, je crois au miracle. Mais même si Dieu n'opérera plus aucun miracle pour moi pour le reste de mes jours, ma foi ne sera pas du tout ébranlée, car Jésus est ressuscité, mon salut est garanti et mon avenir au ciel aussi. Je n'ai besoin de rien de plus. Jésus est ressuscité. Come on, une bonne main d'applaudissement. Jésus est ressuscité. J'ai besoin de rien de plus. Parce que Jésus est ressuscité, il n'est plus nécessaire de rechercher des preuves de plus, ni des signes, ni des miracles, ni des manifestations prophétiques ou quoi que ce soit. Nous n'avons plus à chercher, questionner, douter. La résurrection est le sceau sur la véracité des Écritures, la crédibilité de Christ et la fidélité de Dieu à sa parole et ses promesses. Parce que notre Dieu est un Dieu d'alliance, de promesses incontournables et inébranlables. Et la résurrection est la preuve de ça. Notre Dieu est un Dieu d'alliance, comme bien décrit par le prophète Jérémie ici. Ainsi par l'Éternel, si vous pouvez rompre mon alliance avec le jour et mon alliance avec la nuit, en sorte que le jour et la nuit ne soient plus en leur temps, alors aussi mon alliance sera rompue. Qui veut dire qu'aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique n'a jamais réussi et ne réussira jamais d'empêcher le lever et le coucher du soleil, ainsi que le va-et-vient de la Marie et le passage du temps et le changement des saisons. Et c'est la même chose avec l'alliance de Dieu envers nous. Aucune force humaine, diabolique, militaire ou politique peuvent empêcher que Dieu ne soit pas fidèle à son alliance, l'ancienne alliance avec Israël et la nouvelle alliance avec nous. L'alliance qui nous assure une nouvelle vie, un nouveau cœur, une vie régénérée et remplie de la vie, la plénitude et la puissance du Saint-Esprit. Ce que Dieu dit qu'il va faire, il va le faire. Ainsi que son alliance avec l'Église. Quand Dieu dit, que même les portes de l'enfer ne peuvent l'empêcher de bâtir et bénir son Église. Ça veut dire qu'il va bâtir et bénir son Église comme qu'il fait aujourd'hui. L'Église n'a jamais été plus forte et plus fréquentée. Et cela, malgré l'opposition, le mépris, la culture laïque, l'hostilité, l'indifférence des médias, les mensonges et les attaques de l'ennemi et les tentatives de rendre l'Église silencieuse et ou obsolète. L'Église chrétienne aujourd'hui croît, l'Église multiplie, l'Église avance selon la promesse de Dieu ici et partout dans le monde. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va le faire. L'Église de ma fille Ashley et son mari James, qui demeure à Tampa, en Floride, Grace Family Church. Savez-vous qu'ils ont loué le stade des Buccaneers de Tampa pour le dimanche de Pâques? Une seule église, avec 8 sites, vont remplir un stade de football pour célébrer la résurrection de Jésus et témoigner que non seulement que Jésus est vivant, l'Église est vivante aussi, ici et partout dans le monde. Yes! C'est l'alliance, c'est la promesse de Dieu, ça! Parce que Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Il a promis l'arrivée de Jésus, Jésus est arrivé. Il a promis la mort de Jésus, Jésus est mort. Il a promis la résurrection de Jésus, Jésus est ressuscité. Il a promis le retour de Jésus un jour, Jésus reviendra. Il a promis notre résurrection un jour et nous allons être ressuscités ou au moins changés si nous sommes encore vivants à son retour. Il a promis une éternité de gloire en sa présence pour ses enfants. Nous allons avoir une éternité de gloire en sa présence. Dieu fait ce qu'il dit qu'il va faire. Yes! Et c'est pour cette raison que la résurrection est plus qu'une croyance pour nous. Elle est une source d'inspiration et d'encouragement, même dans les périodes les plus difficiles. Historien théologien renommé Jarislav Pelikan a dit, « Si Christ n'est pas ressuscité, rien d'autre est important. Mais si Christ est ressuscité, rien d'autre est important. » C'est bien dit, ça! Jésus est vivant! La vie éternelle m'attend! Je n'ai pas à m'inquiéter de rien, même pas la mort. La résurrection annonce la mort de la mort. Une bonne main d'applaudissement. Je n'ai rien à m'inquiéter. Parce que sa résurrection garantit notre résurrection. Sa résurrection garantit ma résurrection. L'apôtre Paul l'a bien dit, « Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. » De même, nous aussi revivrons en Christ, dont le titre de mon message, en chemin vers ma résurrection, en chemin vers une éternité, dans un corps glorifié et dans un lieu glorifié, ce que nous appelons le renouvellement de toutes choses. Savez-vous qu'est-ce qui nous attend, dû et grâce à la résurrection de Jésus, une éternité où tout est renouvelé? Qu'est-ce qui nous attend un jour? C'est ce que j'appelle le renouvellement de toutes choses, le renouvellement de la terre et le renouvellement de notre corps. La Bible est claire, l'Apocalypse 21. « Et je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée par son époux. Le ciel descend sur la terre avec des dimensions précises, ce qu'on appelle la nouvelle Jérusalem, qui est la capitale, mais avec la terre et les cieux renouvelés, purgés, purifiés et perfectionnés. » Et ça, c'est confirmé par toutes les Écritures, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament. Apocalypse 21 encore. « Et celui qui est assis sur le trône dit, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Le prophète Isaïe, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. » L'apôtre Paul ajoute sa voix, mais nous attendons, l'apôtre Pierre, « Mais nous attendons selon sa promesse, et Dieu est fidèle à ses promesses, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. » Enfin, la justice! Qui veut dire non seulement qu'on attend une nouvelle terre, mais une nouvelle culture. Un renouvellement non seulement écologique, environnemental, mais sociologique et spirituel. Le renouvellement de la terre. C'est ça le ciel, c'est ça ce qui nous attend. Comprenez, Dieu n'a pas créé cette terre merveilleuse pour en débarrasser. Mais Dieu a créé la terre pour qu'un jour, elle soit renouvelée pour nous et habitée par nous, ses enfants, le peuple de Dieu. On a des indices de cette vérité partout. Proverbe 10, 30. Le juste ne chancellera jamais, mais les méchants n'habiteront pas la terre. Matthieu 5, Jésus ajoute sa voix. Heureux les doux, les humbles, ceux qui sont dépendants sur Dieu, car quoi? Ils hériteront la terre. Le psaume 37, les justes posséderont le pays et ils demeureront à jamais. Comme j'ai dit, Dieu n'a pas créé cette belle terre pour s'en débarrasser un jour, mais pour la rendre à son ancienne gloire. Alors, n'inquiétez-vous pas. Et ne soyez pas déprimés si vous n'avez pas l'occasion de voyager et visiter le globe comme certains ont et de visiter les milliers d'endroits magnifiques et majestueux qui existent sur notre planète. Vous allez avoir une éternité pour le faire. Quand nous voyons déjà des indices du paradis sur la terre, vrai ou faux? Quand on voyage parfois, là, on voit des endroits, wow, ici au Québec, au Canada, partout dans le monde, il y a des moments parfois qu'on arrête par des scènes époustouflantes. On dit qu'il faut arrêter émerveillé parce qu'on dit, wow, c'est des indices du paradis, les indices de la création merveilleuse du Seigneur. Mais un jour, ça va être encore plus wow parce que nous allons voir la beauté de la terre sans les effets de la chute. Ça va être la beauté de la terre renouvelée dans sa perfection. C'est ce qui nous attend. Bonne main d'applaudissement pour cela. Le Seigneur va renouveler les cieux et la terre avec la capitale, la Nouvelle-Jérusalem. Et ce n'est pas seulement la terre qui sera renouvelée, mais nous aussi. Le ciel est la glorification de la terre. C'est l'endroit où nous allons passer l'éternité. Mais la résurrection, notre résurrection, est la glorification de notre corps. La résurrection de Jésus garantit notre résurrection, mais avec un nouveau corps glorifié. L'apôtre Paul le dit tellement bien en 1 Corinthiens. « Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel, le corps glorifié. » Que veut dire un corps glorifié? Un corps glorifié veut dire un corps parfait. Vision 2020, parfaite santé, parfaite énergie, un corps parfait. Qu'est-ce que ça veut dire un corps glorifié? Ça veut dire un corps qui ne vieillit plus. Amen. Tous les femmes disent? Enfin, ça serait plus nécessaire d'acheter des bouteilles de crème à 150 $ la petite bouteille pour préserver notre jeunesse. Et tous les hommes disent... Mais entre-temps, continuez, ça nous fait du bien. Mais un jour, un corps parfait, glorifié, un corps « wow ». Pour tous les hommes qui se regardent dans le miroir le matin et disent « wow! » Un jour, ça va être encore plus « wow! » C'est que j'ai déjà dit, un homme regarde son corps dans le miroir le matin et dit « wow! » Son épouse regarde son corps et dit « des wow! » Un corps glorifié. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, Pasteur Marc, un corps glorifié? En as-tu des indices de cela dans les Écritures? Oui. Un des meilleurs indices d'un corps glorifié semble être Jésus après sa résurrection. Ça dit, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, il est les prémices, le premier de ceux qui sont morts. Alors, c'est encore l'alliance. Parce que Jésus est ressuscité dans un corps glorifié, nous avons la promesse que nous allons avoir un corps glorifié. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, un corps glorifié? Mais quand on jette un regard sur les évangiles, on voit que Jésus, dans son corps glorifié, c'était quand même son corps, et on voyait qu'il marchait, il voyageait, il parlait, il discutait, il mangeait. Tous les hommes disent. La dernière chose que Jésus a faite avant sa crucifixion, c'est manger avec ses disciples. La première chose qu'il a faite après la résurrection, c'est cuisiner un déjeuner sur le bord de la plage pour manger avec ses disciples. La première chose que nous allons faire au ciel, c'est manger, encore une fois, un souper au ciel. Jésus aime manger. Et moi, je veux être plus comme Jésus. Alors, quand je mange parce que, ben, je veux être comme Jésus. Ça, c'est le nouveau corps. Ça, c'est le corps glorifié. Et surtout, quand on jette un regard sur Jésus, Jésus était identifiable. Ça, c'est important, ça. Il savait que c'était Jésus. C'était pas un fantôme, c'était pas un esprit. C'était Jésus. C'est important, ça. Ce fut Jésus avec les marques de sa vie sur la terre. C'est comme ça que les disciples l'ont connu. Oh, c'est vraiment Jésus! Comprenez quelque chose, nous n'allons pas passer une éternité avec des créatures sans visage, étrangers au ciel, où qu'on ne se reconnaît pas. Quand moi j'arrive au ciel, moi je vais aller voir ma mère. Je vais connaître ma mère va me reconnaître, c'est notre espérance. Nous allons être identifiables. Ça va être vous et ça va être moi. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Mais dans un nouveau corps, ça va être nous, vous et moi. C'est notre espérance. C'est ce qui nous attend grâce à la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qui nous attend? C'est une nouvelle terre, un nouveau corps dans la présence de Dieu. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait, « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. » Non seulement une nouvelle terre, nouveaux cieux, nouveaux corps, mais Dieu sera présent avec nous pour l'éternité. Il sera avec eux. Et en plus, l'Apocalypse nous dit qu'ils verront son visage. Apocalypse 22, 3, Dieu sera là et ils verront son visage. Quel privilège! Une source de terreur pour certains, mais une source de merveille, wow, d'anticipation pour ceux qui sont prêts et préparés. Ils verront son visage. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, l'homme verra le visage de Dieu. Pour la première fois depuis l'éternité, l'homme verra la face de Dieu dans toute sa splendeur, son amour, sa compassion, sa puissance, sa sainteté, sa gloire. L'homme verra son visage resplendissant, un privilège jamais accordé à qui que ce soit depuis toujours. C'est Jésus qui le dit en Jean 1, « Personne n'a jamais vu Dieu, personne jamais ». Mais c'est le privilège accordé seulement et uniquement à ceux qui sont nés de nouveau, qui seront au ciel, justifiés par leur foi en Christ et qui fixent leur regard sur le ciel et qui anticipent son arrivée de vivre en sa présence pour toujours et qui ont hâte de voir son visage. Combien ont hâte de voir le visage du Seigneur et demeurer en sa présence? Levez vos deux mains vers le Seigneur et dites, Seigneur, j'ai hâte. Le privilège de voir le visage de Dieu. Voir son visage et jouir de sa présence qui serait partout. Isaïe chapitre 11 nous dit, « Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. » Il part du ciel. « Car la terre sera remplie, la terre renouvelée, de la connaissance de l'Éternel comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Il n'y a pas un endroit au fond de la mer qui n'est pas touché par l'eau. » Vous êtes d'accord avec moi? Puis il n'y aura pas une place, une pousse sur la nouvelle terre qui ne serait pas touchée par la présence de Dieu, la connaissance et la conscience de la présence du Seigneur. Dont la raison que non seulement nous attendons le ciel, mais nous l'anticipons, nous y aspirons, parce que c'est le lieu où Dieu est. Dont la raison qu'il ne faut jamais demander à quelqu'un, « Voulez-vous aller au ciel? » Qui ne voudrait pas aller au ciel? Même la personne qui ne croit pas au ciel dirait, « Bien, s'il y a un ciel, ben oui, j'aimerais y aller au ciel. » Il ne faut jamais demander « voulez-vous aller au ciel? » Il faut demander la question « voulez-vous être avec Jésus pour l'éternité? » Parce que c'est ça le ciel, dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Et si on n'aime pas la présence de Jésus ici-bas, pourquoi qu'on aimerait la présence de Jésus pour l'éternité? Mais si vous aimez la présence de Jésus ici, c'est pour ça que vous êtes déplacé malgré l'heure perdue et malgré la température, vous allez avoir la présence de Christ pour l'éternité. Come on, une bonne main d'applaudissement. C'est là que Dieu sera. Partout, partout, partout. L'apôtre Paul était toujours conscient de ce qu'il attendait. C'est pour ça qu'il dit des choses comme « Nous sommes donc toujours pleins de confiance et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. » Être au ciel, c'est d'être auprès du Seigneur. L'apôtre Paul savait. Il dit quelque chose de semblable aussi. Philippiens 1. Il dit, « J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui est de beaucoup le meilleur. Mais à cause de vous, il est plus nécessaire que je demeure dans la chair. » Vous comprenez quelque chose? La préservation de la vie sur la terre est un instinct placé en nous par Dieu. Il est nécessaire que nous soyons là, ici, vivants, le plus long que possible. Mais nous avons quand même en nous cette réalité et ce désir ardent de voir Jésus quand la fin arrive. Quand le temps arrivera de notre décès, de notre mort, nous avons cette assurance que c'est Christ qui m'attend. Il y a une récompense, c'est Jésus qui m'attend. C'est pour ça que l'apôtre Paul parlait comme ça. Il dit, c'est bien sur la terre, on veut servir le Seigneur, c'est bien que je sois là, mais oh, j'ai hâte, j'anticipe, j'aspire voir le Seigneur. C'est pour ça que je dis, la résurrection enlève la terreur de la mort. La mort, la douleur, the sting of death, l'aiguillon, c'est enlevé parce que nous savons qu'après la vie ici, nous avons la vie avec Jésus pour l'éternité. C'est pour ça que ma mère, sur son lit de mort, juste avant de passer à l'éternité, elle chantait le chant « Quel beau jour ce sera quand mon Jésus reviendra, quand il me prendra la main, me conduira vers son lieu sien. What a beautiful day that will be! » Parce qu'elle savait que qu'est-ce qu'il attendait de l'autre côté de la porte, c'était la présence de Christ. La résurrection de Jésus nous garantit notre résurrection en sa présence. Est-ce que je peux entendre un amen à cela? Une éternité renouvelée nous attend. En la présence de Dieu, voir le visage de Jésus glorifié. Mais aussi, qu'est-ce qui nous attend? C'est un lieu intéressant, un lieu actif. Ils vont voir, ça va être intéressant au ciel. Ils vont voir l'action, l'activité. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu, ça nous dit en Apocalypse, et le serrent jour et nuit. Le ciel, c'est le service, c'est le fruit, c'est la production, c'est l'activité. Il y a des choses qui vont prendre place pour l'éternité. Moi, j'ai grandi à l'église. Moi, j'ai grandi dans l'église, l'école du dimanche, depuis que je suis enfant. Quand j'entendais des histoires du ciel et l'enfer, je pensais que j'avais le choix entre l'éternel tourment ou l'éternel ennui. J'ai dit, écoute, le ciel, là, ça ne semble pas être trop, trop fun, le ciel, mais ils vont avoir l'activité. Ça nous dit que la Nouvelle Jérusalem, les portes ne seront jamais fermées. Il va y avoir aller, retour, du va et vient. Ce n'est pas l'éternel ennui. Ce n'est pas juste une vacance, un centre de retraite pour l'éternité. C'est triste quand on a cette idée-là du ciel. Là, ben, c'est comme si on flotte sur des nuages avec des ailes, on va jouer de la harpe, on va manger le fromage à la crème. C'est pas ça le ciel. Ça nous dit qu'il va y avoir des rues, des arbres, des animaux, des nations, de l'eau, des bâtiments, avec du va-et-vient. On va parler, on va marcher, on va agir, on va manger. Et c'est certain qu'il va y avoir des chants au ciel. C'est certain qu'on va spontanément crier « Wow! » et louer et adorer et chanter dans la présence de Jésus. Mais nous n'allons pas passer l'éternité à chanter. Ça, c'est un autre mythe qu'on entend parlant du ciel. Si vous voulez me décourager du ciel, dites-moi qu'on va chanter pour l'éternité. Regarde, moi, j'aime chanter, mais après 30 minutes, on va passer à d'autres choses. Mais je comprends, oui, nous allons louer et chanter. Et on va chanter, c'est vrai, et louer pendant l'éternité, mais pas pour l'éternité. Il va y avoir d'autres choses qui prennent place. Louer, adorer, chanter, ça va être facile et spontané, mais il va y avoir l'action, l'activité. Ça va être intéressant, être au ciel. Puis en plus, ça nous dit que ça va être un lieu parfait, rempli de joie. Jésus et Paul décrivent plus qu'une fois le ciel comme le paradis. Aussi, une des descriptions en Apocalypse. Il habitera avec eux, Dieu, et il sera son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Les premières choses veut dire la vie comme elle fut sur la terre. Mais là, on nous rentrons dans un autre chapitre, sans la douleur, sans l'angoisse, sans le deuil. Ça va être la joie parfaite, ça va être le paradis. Ça va être un lieu de liberté. Liberté, libre du péché, libre de la maladie, la dépression, le malheur, la tristesse, la douleur. Ça va être une joie naturelle et spontanée. Vous savez, il y a trois moyens que Jésus nous libère du péché. Il y a la justification, Jésus nous libère des conséquences du péché. La sanctification, Jésus nous libère de l'influence du péché. Mais un jour, la glorification, où ce qu'on est libéré de la présence du péché et du diable. Quelqu'un a déjà dit, le ciel, c'est où Dieu ne cache jamais sa face et où ce que Satan ne demande jamais sa face. Nous allons être libérés pour vivre dans la joie parfaite pour l'éternité. Come on, une bonne main d'applaudissement, une acclamation au Seigneur. Merci Seigneur, pour cette réalité et cette vérité. Isaïe a décrit justement ce lieu de bonheur en Isaïe 25. Isaïe nous donne plusieurs aperçus, indices de qu'est-ce qui nous attend. Isaïe 25, c'est merveilleux. Il dit, « L'Éternel des armées prépare à tout son peuple sur cette montagne. » Ça, c'est le lieu où Dieu est, où il sera pour toujours le ciel. Il prépare un festin de mets succulents, tous les hommes disent. Il prépare un festin de vins vieux, tous les femmes disent. De mets succulents, plein de moelle, de vins vieux clarifiés. Je ne suis pas sûr ce que ça veut dire, mais j'imagine que c'est positif. Et sur cette montagne, il anéantit le voile qui voile tout le peuple, la couverture qui couvre toutes les nations. Il dit, c'est le moment de la révélation. Il n'y a plus de voile pour cacher Dieu. Il anéantit la mort pour toujours. Le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple. Ça, c'est bien dit, ça. C'est la fin de la honte, c'est la fin de la moquerie, c'est la fin du ridicule, c'est la fin de la persécution que bien des chrétiens endurent. Parce qu'il dit, en ce jour-là, l'on dira, voici, c'est notre Dieu. Enfin, la révélation de qui Dieu est. Ça, c'est notre Dieu. Et ça va être dit avec louange, acclamation, admiration. On va dire, c'est notre Dieu. C'est lui en qui nous avons confiance. C'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. En anglais, ça dit, pour qui nous avons attendu longtemps, waited with patience. Et là, il termine en disant, soyons dans l'allégresse et réjouissons-nous de son salut. Combien sont d'accord? Il ne faut pas attendre le ciel pour sauter d'allégresse et se réjouir. On se réjouit d'avance parce qu'on sait que la résurrection de Jésus nous garantit la vie dans la présence de Dieu et la révélation de Dieu où est-ce qu'on va être fier, on va être rempli d'admiration, adoration, acclamation, puis on va dire « Voici mon Dieu pour l'éternité en sa présence. » Come on, une bonne main d'applaudissement au Seigneur. Poussons un cri de joie. Yes! C'est ce qui nous attend. C'est ce qui nous attend. Ça, c'est des indices bibliques des choses qui nous attendent. Mais autre chose qui nous attend au-delà de notre imagination. Un bonheur inimaginable. C'est pour ça que l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 2, « Mais comme il est écrit, il dit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Des choses incroyables, inimaginables. Et Dieu sait qu'est-ce qui nous attend. Et Dieu anticipe l'éternité pour nous. Nous, on a des indices du ciel. Mais Dieu, ici, c'est quoi le ciel? Et Dieu voulait tellement le ciel, Dieu voulait tellement passer l'éternité avec nous, avec ses enfants, que selon Dieu, la misère de la terre, la misère de l'humanité depuis des siècles et des siècles vaut le ciel. La récompense vaut le prix payé et ça inclut la souffrance de Jésus, même la souffrance de mon fils, et vaut le ciel, gagner le ciel pour ceux qui mettent leur foi en Christ. Il y a quelque chose qui nous attend qui est inimaginablement bien. Jamais entendu, impossible de décrire. Puis la bonne nouvelle en dernier, c'est que c'est pour l'éternité. Un lieu renouvelé, parfait, en présence de Christ, pour l'éternité. Comme que Dieu est sans fin, nous allons être sans fin. L'apôtre, c'est C.S. Lewis qui a dit ceci, je termine dans quelques instants. « Si je découvre en moi-même un désir qu'aucune expérience dans ce monde ne peut satisfaire, l'explication la plus probable est que j'ai été créé pour un autre monde, un autre royaume. » Et c'est bien dit, ça. On vit comme avec une perpétuelle insatisfaction. On sait qu'il y a quelque chose d'autre. Nous vivons toujours avec la notion, la pensée que « all good things come to an end », mais pas au ciel. Mais c'est vrai, hein? Peu importe le moment de joie, plaisir, rire, repos, fraternité que nous vivons ici-bas, on est toujours conscient que c'est temporaire, hein? On vit un moment incroyable, mais on sait que ben, ça va finir, ça. Il va y avoir une fin à ça. Peu importe les moments de plaisir, un peu comme C.S. Lewis dit, peu importe le bonheur qu'on vit ici-bas, on est toujours hanté par notre mortalité. Et la réalité que même les moments les plus plaisants et agréables sont passagers. Même les moments les plus précieux sont teintés par la réalité, sont teintés par la corruption, la maladie, la dysfonction, le rejet, la perte, le mal. On a toujours cette conscience que ben, c'est bien ce que je vis, mais c'est pas parfait, une certaine insatisfaction. Et c'est comme C.S. Lewis a dit, c'est probablement parce que j'ai été créé pour un autre monde et un autre royaume. Et c'est vrai, nous avons été créés pour le royaume de Dieu éternel, où ce que nous allons vivre le bonheur et nous allons vivre la joie et la perfection, mais sans la notion que ça va terminer bientôt, sans la notion de la dysfonction et le mal et le péché et la maladie et la corruption. On va voir cette notion que ce que je vis là, c'est pour toujours, c'est pour l'éternité. On anticipe, on aspire, on attend ce jour. Est-ce que vous êtes avec moi? Je vous encourage de lire la fin de votre Bible, l'Apocalypse 21-22. Vous allez avoir des descriptions incroyables du ciel qui terminent dans cette description incroyable du plaisir, la gloire, la majesté du ciel avec le peuple de Dieu dans un corps glorifié, puis termine avec « Et ils régneront au siècle des siècles ». Wow! Régneront du siècle des siècles. Et c'est pour ça qu'on dit que pour nous, la résurrection de Jésus est la garantie que tout ce que nous faisons n'est pas vain. Tout ce que nous faisons, parce que la résurrection de Jésus garantit ma résurrection. Il y a quelque chose qui nous attend. J'invite les musiciens en avant pour préparer à célébrer la résurrection de Jésus. Mais on sait que non seulement que la résurrection de Jésus garantit ma résurrection, mais c'est aussi la garantie que tout ce que nous faisons n'est pas vain. Notre travail, notre dévouement, notre service, notre sacrifice, nos prières ne sont pas vaines. Le ciel impacte pas seulement notre mort, mais notre vie. La résurrection et la promesse de la résurrection, c'est pas seulement une question de notre mort, c'est une question de notre vie. N'est-ce pas ce que l'apôtre Paul nous enseigne dans son récit magnifique sur la résurrection en 1 Corinthiens chapitre 15, où il réfléchit sur la vie chrétienne si Jésus n'est pas ressuscité? Remarque qu'est-ce qu'il dit. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est vaine. Notre foi est vaine. Nous sommes encore dans nos péchés et perdus. Nous sommes les plus malheureux et misérables de tous les hommes. Parce qu'on fait tout ça pour rien. Et par la suite, il commence à demander des questions. Si Christ n'est pas ressuscité, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril et à chaque jour je suis exposé à la mort? Pourquoi j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse? Quel avantage me revient-il? Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. En autre mot, si Jésus n'est pas ressuscité, vivons pour aujourd'hui. Les plaisirs sensoriels et sensuels. Si les morts ne ressuscitent pas, mangeons, buvons, car demain nous mourrons. Et si Jésus n'est pas ressuscité, que ça donne de prêcher, prier, travailler? Que ça donne de souffrir, de sacrifier notre sommeil comme ce matin, et notre argent, et notre énergie, et notre confort, et se déplacer, même quand ça prend un effort, et même parfois sacrifier notre réputation. Qu'est-ce que ça donne? Les combats et les conflits et les charges sont futiles et inutiles. On est misérable pour rien si Jésus n'est pas ressuscité, mais il est ressuscité, dont la raison que Paul termine son écrit avec « Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. » Bien-aimé, c'est pas toujours facile. Il y a des combats, des sacrifices, des efforts, un prix à payer, mais il dit « Soyez fermes, inébranlables, travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Et nos prières ne sont pas vaines non plus. » Est-ce qu'on peut se lever tous ensemble, tout le monde, en arrière, jusqu'ici en avant, et poussons un cri de joie avec une ovation, une acclamation? Ce n'est pas vain. Mes efforts, mes prières, ma générosité, les sacrifices, les déplacements, ce n'est pas vain parce que Jésus est ressuscité. D'avoir un site nouvelle vie, puis un deuxième site nouvelle vie, puis un troisième, un quatrième, un neuvième, bientôt un dixième. Seigneur, multiplie. Oui, on a les mains pleines. Oui, ça coûte l'argent et l'effort et le travail et le fardeau. Mais Seigneur, on veut que tu ajoutes et t'ajoutes et t'ajoutes. On est prêt à travailler en anglais, espagnol, français. Seigneur, peu importe les langues, Seigneur, on va continuer à travailler jusqu'au retour de Jésus parce que ce n'est pas vrai. On est fort, inébranlable et on travaille. On va célébrer dans un instant la résurrection en préparant pour Pâques le chemin, en chemin vers la résurrection. On va célébrer notre résurrection. Sa résurrection, c'est ma résurrection. Nous sommes en chemin vers notre résurrection. Comprenez quelque chose. En cet instant même, Dieu est en train de faire deux choses. Dieu est en train de préparer le ciel pour nous. Il est en train de préparer le ciel pour nous. Je vais préparer une place pour vous. Mais en même temps, il est en train de nous préparer pour le ciel. Il travaille à nous préparer. Il prépare une place, mais il nous prépare en même temps. Alors, n'oublions jamais la vie ici-bas, avec tous ses défis, pressions, problèmes, déceptions et peines, n'est pas notre destinée éternelle. Vivons avec un œil sur notre avenir éternel. Un jour, nous allons dire, voici notre Dieu, ça vaut la peine. Est-ce qu'on peut célébrer? Nous allons terminer cette réunion avec un moment de célébration. On a chanté le chant, hein? Il est qui dit qu'il est. Dieu est qui dit qu'il est. On va le chanter ensemble, même si vous êtes à la maison ou peu importe où vous êtes. Je vous invite à célébrer avec nous. Chantez, poussez un cri de joie. Dansez si vous voulez, parce que sa résurrection, c'est ma résurrection. Come on, célébrons ensemble. Il est qui dit qu'il est.